Maintenant, on va parler d'agriculture ce matin parce qu'on sait que Walmart a des pratiques d'imposer, entre autres, à ses fournisseurs des montants, des pourcentages sur les ventes pour les infrastructures, pour payer pour le commerce en ligne. Je pense que Walmart n'est pas le seul joueur. Il y a d'autres joueurs qui tentent de faire ça. Marcel Groslot est le président de l'UPA. M. Groslot, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Pourriez-vous m'expliquer là, très clairement quelle est la technique utilisée par Walmart?
Ben, on décrète tout simplement des frais pour pouvoir distribuer nos produits chez Walmart, tout comme vous l'avez dit dans les autres chaînes. Ce sont des frais qui sont décrétés. On reçoit une lettre, les fournisseurs reçoivent une lettre à partir de telle date. On va retenir sur la facture que vous nous avez présentée 1,5 % 1,6 % Quelquefois, on dit pourquoi, d'autres fois, non. Alors, c'est la pratique, elle est très, très simple. Puis, ils ont un pouvoir tellement important, puis ils sont tellement incontournables qu'ils peuvent se permettre d'agir de la sorte. Il n'y a pas de négociation.
OK, il n'y a pas de préavis, vous recevez une lettre, puis c'est en vigueur.
À partir de telle date, c'est en vigueur, voilà. La plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne.
Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que d'autres ont la même pratique?
Non, c'est pas nouveau. On avait, mais bon, les chaînes qu'on connaît davantage, là, Metro, IGA et les autres, le font également. Puis, ils s'imitent les unes les autres. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas capable de démontrer qu'il y a collusion, mais ils n'ont pas besoin. Ils ont simplement à annoncer, une fois que c'est annoncé qu'ils procèdent de cette façon-là, la chaîne, les autres chaînes les imitent tout simplement. Alors, il y a comme une façon de procéder qui est... entre guillemets, qui n'est pas de la collusion, mais qui, toute fin pratique, a le même effet. Là.
J'allais vous dire, c'est comme le prix de l'essence. Quand il y en a un qui monte le prix, les autres suivent.
C'est ça, exactement, M. Arcand. Moi, hier, cette semaine, le prix de l'essence dans ma région, Thetford Mines, a baissé d'un sou, puis a baissé d'un sou partout. Alors, c'est des pratiques comme celle-là qu'à mon avis, on doit... Le tribunal de la concurrence doit porter un œil là-dessus. Nous, on demande de faire enquête. On n'a pas déposé une plainte parce qu'on n'a pas de preuves. On demande de faire une enquête sur ce genre de pratique-là qui est déstructurant pour le secteur agricole alimentaire.
Est-ce que les pourcentages sont les mêmes d'une bannière à l'autre?
Ils peuvent varier légèrement. Comme dans ce cas-ci, United Grocer a annoncé qu'il ferait exactement comme Walmart. Alors, c'est un très gros distributeur aussi. Donc, nos distributeurs passent par ce distributeur-là pour se rendre dans les différentes bannières. Alors, ici au Canada, puis lui, il a déjà annoncé, quelques jours après que Walmart ait fait annoncé sa décision, qu'il ferait pareil. Donc, c'est évident que les autres vont suivre ou vont devoir suivre. Ils vont nous dire, on doit suivre si on veut demeurer compétitif. Alors, C'est la pratique, puis c'est dénoncé, mais en même temps, les gens ont peur de dénoncer. Les fournisseurs ont peur de dénoncer parce qu'ils peuvent se faire sortir du marché très facilement ou ils peuvent se faire imposer d'autres conditions, comme tu vas venir livrer plus tard, comme tu peux pas venir livrer aujourd'hui. Alors, c'est d'autres conditions qui vont s'ajouter parce qu'ils se comportent pas en bon fournisseur, entre guillemets. C'est des pratiques qui existent aussi, là.
OK. En fait, l'impact pour le producteur, c'est quoi?
Dans le sens l'impact pour le producteur, oui, c'est ça. L'impact pour le producteur, c'est que, c'est par exemple, un emballeur de pommes de terre ou de pommes, s'il se fait imposer un frais de 6 % ben lui, il n'a pas le choix peut-être d'en absorber une partie, mais de charger une bonne partie ou de reporter une bonne partie de ce 6 %-là sur ses fournisseurs à lui. Il peut pas baisser ses salaires, il peut pas le coût de l'électricité sera pas ajusté parce qu'il paye 6 % de frais. Les taxes municipales changeront pas parce qu'il paye 6 % de frais. Alors la seule façon dont il peut passer ce frais-là, c'est sur le produit agricole. Mais nous, on n'a pas le choix de le vendre puisque ce sont des produits périssables. Alors, c'est là où, à chaque fois qu'il y a des frais comme ça qui sont imposés, ça retombe nécessairement sur les producteurs agricoles.
Est-ce que le producteur peut, en faisant ses calculs, je dirais, si tu me charges 6 % moi, je vais te charger 3-4 % de plus que d'habitude, non?
Bien, il peut difficilement parce que, comme je viens de vous l'expliquer, nous, on a un produit périssable, puis le nombre d'emballeurs sont pas très nombreux non plus là, pour être capable de fournir ces chaînes-là. Alors, les producteurs n'ont pas beaucoup d'options que de laisser aller leurs produits. On le dit souvent en agriculture, M. Arcand, les producteurs agricoles sont des preneurs de prix parce que on n'est pas, les produits sont périssables, les récoltes se succèdent, on peut donc pas attendre que les prix s'améliorent. Donc, on est des preneurs de prix dans le marché. Alors, on est très vulnérable par rapport à ces pratiques-là.
Et si tu ne vends pas à Walmart, si tu ne vends pas à Métro, si tu ne vends pas à IGA, tu ne vends pas à grand monde?
Mais là, il faut que tu te retournes vers les marchés locaux. De plus en plus de producteurs tentent de diversifier leur vente. Puis on l'a vu récemment. Plusieurs vont faire de l'autocueillette pour favoriser une vente directe puis éliminer les intermédiaires. Mais on peut pas ne vendre que par ces mécanismes-là ou ces marchés-là. On doit aussi être capable d'approvisionner les autres grands marchés. Puis on avait demandé il y a quelques années via le Conseil canadien du commerce de détail, la mise en place d'un code de bonne pratique. Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur un code de bonne pratique commerciale? Donc, vous avez un pouvoir, on le connaît, les consommateurs doivent aller vers vous, on le sait, mais est-ce qu'on peut avoir un code de bonne pratique? On avait eu quelques discussions, mais ça n'avait pas été très, très loin. Inévitablement, nous, on croit qu'on doit ou que le gouvernement doit imposer ce genre de code des bonnes pratiques-là et permettre aux fournisseurs d'avoir une voix sur la façon dont ils sont traités par ces grands distributeurs-là.
Est-ce que Walmart achète vraiment beaucoup de produits québécois, de produits périssables, oui, ou s'ils s'alimentent en Ontario ou encore aux États-Unis?
Non, ils cherchent... Toutes les bannières cherchent à avoir des produits québécois parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à l'achat local. Donc, même on le voit maintenant dans les circulaires, le produit québécois, produit du Québec. Alors, ce sont des produits d'appel maintenant, les produits québécois dans les supermarchés. Donc, ils veulent les avoir. Donc, ce sont des gens qui achètent au Québec, qui achètent localement. Mais ce n'est pas ça qui nous dérange là, présentement, c'est plutôt les pratiques commerciales qu'ils imposent.
Un petit mot, là, il y a eu des accords de libre-échange, il y avait des compensations qui étaient prévues pour les producteurs, ouais, de lait. Il arrive quoi avec ça?
Ben, on a eu les compensations pour l'accord du partenaire transpacifique, là. Ça c'est réglé pour les producteurs de lait, mais ça ne l'est pas pour les producteurs d'œufs et de volailles. Pour l'accord, le nouvel accord avec les États-Unis, il n'y a rien de réglé au moment où on se parle.
Merci, M. Groslot.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Marcel Groslot, est le président de l'UPA. On va aller retrouver Marc. On sait qu'on a un problème au tunnel La Fontaine. Et comme dirait Jésus, c'est la multiplication des chantiers en fin de semaine aussi.